Allô, bonjour, docteur.
Ma question est la suivante.
Oui, j'ai une toute petite question à vous poser.
Voilà, j'ai un problème pour suivre le traitement des champignons.
Priorité santé.
J'ai un ami qui a un problème là.
Claire Hédon.
Bonjour à tous. À l'occasion de la 6e journée nationale des apnées du sommeil qui se déroule samedi en France, je vous propose de nous intéresser à ces problèmes d'apnée et de ronflement. Que faire? Quels sont les traitements? Quels sont les moyens de prévention? Y a-t-il des risques à long terme? Le professeur Marie-Pia Dorto du service d'exploration fonctionnelle de l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris est avec nous pour répondre aux questions que vous vous posez. Jean-Claude Roussel est également avec nous. Il est président de la Fédération française de malades et handicapés respiratoires. Professeur Marie-Pia Dorto et Jean-Claude Roussel, bonjour. Merci à tous les deux d'être ici avec nous. Les auditeurs qui veulent participer, poser une question, je redonne le numéro de téléphone qui est le 33 1 56 40 18 22. Je répète, 33 1 56 40 18 22. Ou si vous appelez de Paris, le 01 56 40 18 22. Professeur Marie-Pia Dorto, une première question assez simple. Finalement, quand on parle d'apnée du sommeil, c'est quoi exactement ? On a l'impression de ne pas en entendre parler très souvent.
Alors, on en parle de plus en plus et Jean-Claude Roussel travaille beaucoup à la diffusion des connaissances sur le sujet. Donc les apnées du sommeil, apnée, tout le monde sait à peu près ce que c'est une interruption de la respiration. Et apnées du sommeil sont en fait des pauses respiratoires qui vont survenir pendant la respiration. La majorité des apnées du sommeil sont liées au fait que ce que l'on appelle dans notre jargon médical les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire ce qui va conduire l'air à partir du nez et de la bouche jusqu'à l'entrée, jusqu'au départ de la trachée, donc ces voies aériennes supérieures peuvent se fermer pendant le sommeil, liées au relâchement musculaire notamment. Il y a d'autres facteurs de risque sur lesquels je pense on reviendra plus tard. Et cela bloque ou cela diminue le passage de l'air et donc ça fait des apnées.
Pendant la nuit ?
Pendant la nuit, pendant que la personne dort.
Donc elle ne s'en rend pas compte et c'est bien ça le problème ?
C'est bien ça le problème. Alors elle peut s'en rendre compte de façon indirecte parce que son sommeil va être perturbé. Et là encore, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Le sommeil va être perturbé, donc la personne peut être fatiguée, peut-être somnolente, mais pas toujours. Et parfois c'est l'entourage qui tire la sonnette d'alarme.
Alors les auditeurs ont été nombreux à nous contacter pour vous poser des questions. Nombreux avec d'ailleurs beaucoup de problèmes de ronflement, où c'était eux qui ont envie de poser des questions, ou leur femme ou leur mari. Et on a là pour l'instant Kamal qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Kamal, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, après avoir été diagnostiqué d'une apnée du sommeil, j'étais chez un neurologue qui m'a fait une analyse du sommeil. Donc je me suis intéressé à la question. Et en fait, j'avais deux petites questions. La première, c'est est-ce que les allergies respiratoires ou alimentaires peuvent aggraver les apnées du sommeil ? C'est-à-dire, bon, vous savez qu'en Afrique, il y a pas mal de poussière, de pollution et tout, et que pas mal de gens souffrent de maladies respiratoires. Est-ce que c'est un facteur aggravant ? Et aussi, est-ce que le fait de manger certains aliments avant de se coucher peut favoriser les apnées du sommeil ?
Alors, professeur Marie-Pia Dorto.
Alors, tout ce qui peut créer une inflammation des voies aériennes supérieures, vous savez, l'inflammation, c'est quand les tissus répondent à une agression et donc ils deviennent gonflés, vont favoriser les apnées du sommeil parce que ça va contribuer à fermer les voies aériennes supérieures. Alors les allergies respiratoires, bien oui, quand on a le nez bouché, ben voilà, on a des voies aériennes supérieures qui sont bouchées. Donc ça peut contribuer à favoriser les apnées. Dans le même ordre d'idée, je dirais que le tabagisme, en inflammant les voies aériennes supérieures, va aussi favoriser les apnées du sommeil. Concernant votre question sur l'alimentation, c'est moins des allergies alimentaires auxquelles je pense que, par exemple, la consommation de produits qui vont favoriser le relâchement musculaire pendant le sommeil et donc favoriser l'affaissement des parois de ces fameuses voies aériennes supérieures. Et je pense notamment à l'alcool, avec le verre de vin ou la bière avant de se coucher, qui majore beaucoup les apnées.
Donc on comprend bien, éviter l'alcool, éviter le tabac, bien sûr. Est-ce qu'aussi le fait d'avoir un simple rhume peut aussi augmenter le problème des apnées du sommeil, en dehors des questions d'allergie ?
Absolument, de la même façon, en bloquant une partie des voies aériennes supérieures.
Kamal, vous aviez une autre question à poser ?
Oui, la deuxième question, c'est, en fait, m'étant un peu documenté sur la question, j'ai trouvé que il n'y avait pas de remède et que le seul palliatif, c'était les appareils à pression positive continue et qui sont totalement introuvables en Afrique. Donc, je voulais savoir, est-ce que ces appareils, on peut se les faire commander par des amis qui sont en Europe? Eh bien, est-ce qu'il faut un diagnostic précis et avoir un appareil précis pour chaque cas? Et par rapport à ça, justement, vu la réponse du docteur, je voulais aussi savoir, est-ce que le fait de prendre, par exemple, des comprimés ou des médicaments qui permettent de déboucher les narines lorsqu'on est enrhumé ou bien lorsqu'on a des allergies, peut permettre de réduire la possibilité d'avoir une apnée du sommeil pendant son sommeil?
Alors Kamal, si vous voulez bien, avant que le professeur d'ortho réponde à votre question, moi j'en aurais une à vous poser. On vous a diagnostiqué cette apnée du sommeil, qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous avez quelque chose de spécifique la nuit pour limiter ces apnées du sommeil ou pas?
Non, le seul conseil que le neurologue m'a donné, c'est de perdre du poids, parce qu'il m'a dit que sur place, c'est assez difficile à traiter, étant donné qu'on n'a pas les appareils.
Donc c'est... Alors, professeur d'ortho, effectivement, la première chose dans les conseils, c'est effectivement de perdre du poids. Avant d'en venir au traitement, est-ce qu'il existe?
Absolument. Le poids, en fait, va jouer tout simplement par l'infiltration graisseuse des tissus du cou, qui va venir appuyer sur ces parois des voies aériennes supérieures et favoriser leur fermeture au cours du sommeil. Donc, évidemment, la première mesure et la première mesure à mettre en œuvre est d'essayer de perdre du poids en connaissant toutes les difficultés que l'on rencontre.
Parce que plus facile à dire qu'à faire.
Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, exactement.
Donc ça c'est la première chose. Alors après, sur les traitements, et on va voir après la question de la disponibilité en Afrique, qu'est-ce que vous préconisez comme traitement?
La ventilation nocturne, donc l'appareil que mentionne Kamal, est le traitement de référence pour les syndromes d'apnée du sommeil sévère. Et puis maintenant, pour des syndromes d'apnée du sommeil plus modestes ou plus modérés, ou du ronflement simple, après il existe des alternatives thérapeutiques sous forme de chirurgie ORL ou de chirurgie maxillofaciale, ou bien également des orthèses d'avancée mandibulaire qui, là où aussi pose le problème de leur disponibilité dans certaines régions du monde.
Et quand Kamal disait, mais est-ce que finalement je pourrais pas le commander en France et l'utiliser à Dakar, est-ce que c'est faisable ou en fait ce sont des appareils électroniques compliqués et c'est pas faisable? Alors vous avez envie de répondre, Jean-Claude, j'allais vous donner la parole après. Jean-Claude Roussel, vous dites non, c'est pas si
non,
simple
non, non,
que ça.
Je dis pas, non, on peut se les procurer. En France, ça pose une difficulté, puisque dans le domaine du commerce, par exemple, un fabricant de matériel ne peut pas refuser de vendre, mais en France, toute personne qui achète du matériel passe par un processus que connaît bien le professeur Marie-Pierre d'Orto, c'est-à-dire que le médecin prescrit l'appareil, le prestataire l'amène au domicile du malade, mais et cela est payé par la sécurité sociale.
Ça veut dire que l'appareil est cher en plus, c'est ça?
Je pense qu'il faut pas voir le soin uniquement avec l'appareil, c'est tout le service qu'il y a autour et qui, bien entendu, ne pourra pas être assuré en Afrique.
Professeur d'ortho, effectivement, il faut de l'entretien, cet appareil.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs
appareils complexes, en fait.
Alors, l'appareil en lui-même est pas complexe, hein. Il s'agit, en gros, on va schématiser les choses à l'extrême, mais c'est une turbine qui va pressuriser l'air qui respire et qui fait la même chose que quand un enfant souffle dans un ballon de baudruche. Ça ouvre le ballon de baudruche et donc cette machine va ouvrir les voies aériennes du patient et la respiration du patient se fait librement. Donc l'appareil en lui-même est assez simple et il nécessite comme équipement juste une prise électrique. Encore faut-il avoir la prise électrique,
et le courant.
Voilà. La question, en fait, moins que la complexité de l'appareil, c'est d'une part, cette ventilation se fait par une interface qui est un masque nasal ou facial, qu'il faut changer régulièrement, qu'il faut entretenir. Et puis l'appareil lui-même est susceptible de tomber en panne. À l'intérieur, il y a des logiciels embarqués qu'il faut interroger pour connaître l'efficacité de la machine, le taux d'utilisation horaire, les complications, les fuites. Enfin, il y a tout un...
C'est comme tout traitement. Vous suivez vos patients grâce à ça.
C'est comme tout traitement.
En fait.
Il y a un suivi. Et de la même façon qu'on ne pourrait pas dire à Kamal, vous avez une hypertension artérielle, vous achetez des médicaments pour les 10 ans qui viennent. Eh bien, on ne peut pas lui dire, achetez une machine et puis vous portez votre machine tout seul sans suivi médical. Ça n'est pas envisageable.
Ça n'est pas possible. Et en tout cas, ce que je comprends bien, c'est que cette machine, elle permet finalement de surveiller après
Absolument.
S'il y a des apnées du sommeil
Absolument.
Ou s'il n'y a pas. Donc si c'est bien régulé. Kamal, je suis désolée. Hein, on ne peut pas vous apporter plus de réponses que ça. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelé de Dakar.
Priorité santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, nous parlons des apnées du sommeil et du ronflement avec le professeur Marie-Pierre Dorto et avec Jean-Claude Roussel. Jean-Claude Roussel, alors vous, justement, vous souffrez depuis de longues années où vous avez souffert d'apnée du sommeil. Comment d'abord vous en êtes-vous aperçu? Parce que je dirais que c'est bien ça le problème.
Écoutez, je pense très sincèrement que moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais un véritable zombie la journée. J'arrivais à m'en... Enfin, c'était même pas de l'endormissement, c'était une sorte de... Pendant quelques secondes, j'étais complètement en dehors de la réalité. Ça m'arrivait au téléphone, dont les gens avec qui je parlais, tout d'un coup, il y avait un blanc, et je reprenais la conversation là où elle s'était arrêtée. J'étais complètement crevé, j'étais irritable, et bien entendu, ce qui arrive malheureusement à beaucoup d'amnésiques non diagnostiqués, on s'endort au volant également, et on a tous des pépins, quelquefois extrêmement graves. Moi, je sais que ça a été la fausse de ma vie. C'était un accident tout à fait, à la limite, très bénin, parce qu'un peu de tollerie, c'est tout. Mais il y avait un bébé à bord, et le bébé a été éjecté, et on a cru qu'il était mort. En réalité, il était au pied d'un arbre, et c'est la mère, en hurlant, qui l'a réveillé. Je peux vous dire que des moments comme ça, on ne les oublie jamais.
Et alors, à partir de là, vous avez du coup consulté un médecin ?
Alors, pendant 3 ans, mon médecin a cherché à savoir ce que j'avais. Il ne comprenait pas. Et là, je dois dire que la formation des médecins, la formation continue a été efficace, puisqu'en revenant d'une formation, il m'a appelé pour me dire « Je crois avoir deviné ce que vous avez. » Et à partir de ce jour-là, les choses sont allées très vite et je me suis retrouvé très rapidement avec un appareillage.
Alors, avec cet appareillage dont on parlait, là, le PPC, c'est ça, la ventilation par pression positive continue, c'est ça que vous avez ?
Oui, alors j'ai été appareillé il y a plus de 20 ans et je pense que Marie-Pierre Dorto doit se souvenir de ces superbes machines.
Ça voulait dire que ça a fait des progrès en 20 ans ?
Oh, ben tout à fait, parce que moi à l'époque, pour vous donner un exemple, ça faisait autant de bruit qu'un lave-vaisselle, ça servait de table de nuit. Et le masque, c'était le masque de fer à côté, je crois que c'était de
donc maintenant,
vraiment très confortable.
C'est un appareil plus petit. Est-ce que ça a été difficile de s'habituer à ça? Est-ce que ça a transformé votre vie?
Pour moi, ça n'a pas été difficile, même malgré les conditions, de s'adapter à cet appareil. Par contre, ce que je peux vous dire, moi, ça a complètement changé ma vie.
C'est-à-dire qu'enfin, vous dormez, c'est ça?
Je dormais. Mais la journée, j'étais plus fatigué. J'étais total, parce que j'ai failli arrêter mes activités professionnelles à l'époque, parce que j'étais un véritable zombie.
Et donc ça a amélioré votre qualité de sommeil. Maintenant vous dormez bien, c'est bien ça la question.
Tout à fait.
Professeur Dorto, c'est bien ça en fait. C'est que finalement ça permet aux gens de réellement dormir, alors qu'en fait, les gens qui ont des apnées du sommeil se réveillent tout le temps.
Non, voilà. Mais ils ne s'en rendent pas compte.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Non, ils ne s'en rendent pas compte.
J'allais dans le sens de Jean-Claude. Certains ont le sentiment d'avoir eu un sommeil très haché, de mauvaise qualité, et d'autres disent « mais je ne comprends pas, je dors très bien ». Et donc après, la difficulté est ou plus exactement, il faut montrer les tracés d'enregistrement nocturne aux patients en leur disant « voilà, vous pensez avoir très bien dormi, mais voilà, là et là, il y a des apnées, et vous voyez votre sommeil tel qu'on l'enregistre qui est perturbé en effet ».
Et c'est ça qui fait qu'effectivement les gens sont fatigués. On a Clément qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Clément, bonjour.
Bonjour Claire.
Nous vous écoutons.
Voilà, merci beaucoup. Moi, je ronfle à tout rompre, que ce soit le jour comme la nuit. Il suffit de me coucher. J'ai le sommeil très facile, mais je ne dors pas bien. Et je me réveille avec beaucoup de maux de tête. Et vraiment, ça me dérange. Alors, je voudrais savoir comment faire. Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il y a un traitement que je dois suivre? S'il y a des médicaments à prendre, vraiment, je serais très content de savoir ce qu'il faut faire.
Professeur,
ça dérange tout le monde autour de moi.
Oui, c'est ça le problème, c'est que ça dérange souvent le conjoint. Professeur Dorto, c'est un énorme motif de consultation, ça justement, la question du ronflement.
Absolument, et c'est d'ailleurs souvent moins la personne qui consulte que le conjoint ou la conjointe qui l'amène en consultation en disant « Écoute, il faut que tu fasses quelque chose, sinon on se sépare. »
Ça fait trop de bruit.
Ça fait trop de bruit, je ne dors plus. Ou ça fait trop de bruit et surtout ça m'inquiète parce que j'entends les pauses de la respiration. Et donc
ça arrive, les conjoints entendent ça.
Oui, C'est-à-dire qu'il y a le ronflement qui tout d'un coup s'interrompt, et puis ça s'interrompt 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et donc c'est extrêmement angoissant parce que le conjoint voit la respiration qui est arrêtée, et puis tout d'un coup une reprise respiratoire bruyante qui correspond à la réouverture brutale de ses voies aériennes, donc la respiration qui reprend, et on voit le patient qui fait beaucoup d'efforts pour sortir de son apnée, donc c'est extrêmement angoissant.
Il n'y a pas toujours un lien entre le ronflement et l'apnée du sommeil?
Non, tous les ronfleurs ne font pas des apnées. Mais la plupart des apnées dans la forme obstructive sont associées à des ronflements.
Clément, est-ce que vous savez si votre entourage vous dit que de temps en temps, ils ont l'impression que vous arrêtez de respirer?
Non, mais quand je ronfle, ils me réveillent. Ils sont à côté, ils me réveillent, ils disent « Lève-toi ». Et quand je change de position, j'essaie de ronfler un instant, puis après je reprends.
Et est-ce qu'il y a des positions dans lesquelles vous ronflez plus que d'autres? Vous savez ça ou pas?
Oui, quand je me couche sur le dos... parfois j'ai la bouche grandement ouverte.
Et là, ça fait du bruit.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a un conseil à donner, professeur d'ortho, sur la façon de dormir?
La position. Alors, on peut conseiller de dormir sur le côté, parce que le fait de dormir sur le côté, là aussi, pour des raisons mécaniques, favorise l'ouverture des voies aériennes supérieures. Mais ça ne suffit pas toujours, et ça ne suffit pas à traiter tous les syndromes d'apnée du sommeil. Moi, je dirais que, à Clément, ce qui est important pour lui, là, c'est de trouver une consultation qui s'occupe des apnées du sommeil pour faire le diagnostic, c'est déjà, ça. Pour s'assurer du diagnostic, et puis ensuite proposer.
C'est ça le conseil qu'on peut donner sur des gros ronfleurs, c'est vraiment d'aller consulter pour savoir si c'est une apnée du sommeil, c'est ça qui est important. Hein, et à partir de là, parce qu'on ne peut pas savoir et on ne va pas faire une consultation par téléphone. Clément, merci de nous avoir appelé. Bon courage à vous et bon courage à votre entourage. Mm-hmm. Et on a Pierre qui nous appelle de Douala au Cameroun. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour Pierre.
Nous vous écoutons.
Voilà, merci. Donc, voici mon problème. Depuis près de 25 ans déjà, donc j'ai des problèmes quand je m'endors, soit au début du sommeil ou bien au moment de l'éveil. Je me sens totalement bloqué, donc je ne peux pas du tout me mouvoir et je me sens partir. Donc je reste quand même conscient et en même temps conscient du fait que je ne peux rien faire. Je ne peux même pas toucher quelqu'un qui est à côté de moi ou bien lui parler pour dire voilà je souffre, touche-moi, aide-moi à me réveiller. Alors ce qui se passe c'est que Quand cette phase qui dure à peu près 10 secondes ou 15 secondes maximum passe, quand je me réveille, pour me rendormir quand c'est au début du sommeil, je dois faire quelques exercices d'étirement et m'endormir à peu près 15 minutes après.
Et Pierre, donc,
je me réveille étant tout anxieux. J'ai expliqué plusieurs fois à des neurologues. Malheureusement, ils n'ont pas toujours très bien compris. J'ai fait plusieurs fois des échographies du sommeil qui n'ont rien donné. Et vraiment, je ne sais comment faire, comment comprendre cette situation et que faire.
Professeur d'ortho, qu'est-ce qu'on peut répondre à Pierre?
Alors, moi, je répondrai à Pierre que ces symptômes, en fait, sont... dans notre jargon médical, ce que l'on appelle des paralysies du sommeil qui surviennent effectivement soit à l'endormissement, soit au réveil, qui sont extrêmement angoissantes, comme le décrit Pierre. Et ça peut accompagner d'autres pathologies du sommeil qui ne relèvent pas forcément des apnées du sommeil, bien qu'ils sentent sa respiration bloquée.
C'est ça, ça n'a pas forcément à voir. On peut avoir l'impression que c'est le genre même genre d'histoire, mais
et
c'est
en
pas
fait,
ça.
Voilà. C'est tout l'attrait de la médecine du sommeil, qui est en fait une médecine extrêmement transversale et multidisciplinaire.
Il y a quelques conseils qu'on peut donner à Pierre? Parce qu'il dit, il le dit lui-même, finalement, quand il se lève et qu'il fait quelques exercices, ça va mieux et il se recouche. C'est effectivement ce qu'il faut faire dans ces cas-là.
Je dirais que... Il faudrait que Pierre consulte. Il a déjà consulté un neurologue, mais qui n'a pas été, semble-t-il, interpellé sur certaines pathologies auxquelles je pense. Mais dans certains cadres et dans certaines pathologies, on pourrait peut-être trouver une réponse médicamenteuse. Encore faut-il mettre une étiquette
sur
ces troubles.
Voilà, toujours dans ces cas-là, on vous conseille finalement d'aller consulter. Ça reste le meilleur moyen. On ne peut pas faire une consultation par téléphone. Professeur Marie-Pia d'Orto, merci en tout cas. Merci à tous les auditeurs qui sont intervenus. On est désolé, on n'a pas pu prendre tout le monde. Vous reviendrez peut-être nous parler de toutes ces questions-là. Jean-Claude Roussel, je rappelle que vous faites partie d'une association. Il y aura les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé, où on trouve retrouvera toutes les indications sur votre association et sur ce que vous faites. Et vendredi, nous parlerons de diététique. Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Comment faire avec peu de moyens? Comment s'y retrouver dans les différents produits qui se disent light et bons pour la santé? Vous pouvez dès maintenant poser vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Au revoir à tous et à demain.